Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au collège Saint-Joseph de La Roche-Bernard. Nous sommes avec les élèves de 4e A et nous allons répondre à la question « Comment se déroule l'évolution des différents transports du 19e siècle à aujourd'hui ?»
Bonjour, je m'appelle Jules et nous allons vous présenter avec mes camarades Andy, Pierre et Lisandre l'histoire de l'aviation.
Les origines de l'aéronautique. Léonard de Vinci, observant le vol des oiseaux, imagina au XIVe siècle le concept de l'hélice, du parachute et de l'hélicoptère et du planeur, la seule force motrice utilisable à l'époque étant celle des muscles de l'homme.
Les frères Wright, en 1843, M. Hanson réfléchit à une machine aérienne, plus précisément une machine à vapeur qui puisse se mouvoir dans l'air au gré de son conducteur.
En 1891, M. Adair fait voler pour la première fois une machine pendant plusieurs centaines de mètres.
En 1903, les frères Wright réalisent le premier vol mécanique à Kitty Hawk.
En 1907, la première unité aérienne militaire est mise en place aux États-Unis sur l'initiative des frères Wright.
Henry Farman bat le record de distance et de vitesse en parcourant 770 mètres en 52 secondes au bord d'un voisin en 1907.
1908, Wilbur Wright réalise aux États-Unis pour le premier vol au monde avec un passager.
Wilbur Wright bat le record de distance et de durée en parcourant 67 km en 1h30 en 1908.
Le premier vol en hydravion a été réalisé sur l'étang de Berre par Henri Fabre en 1910.
À Paris se tient la première conférence internationale sur la navigation aérienne.
En 1917, la première liaison radio entre un avion et une station au sol est réalisée en Virginie.
En 1920, les frères Farman créent la Société Générale des Transports Aériens.
C'était en 1922 que l'invention du rotor à pales articulé en battement et entraîné par l'Espagnol John de la Cierva pour ses autoguires permet la réalisation d'hélicoptères fiables en mettant également à profit l'allègement des structures et des moteurs.
Première utilisation d'un siège éjectable à air comprimé, construit par la société allemande Henkel.
Le premier vol du bombardier américain B-36, le plus grand jamais construit, a été construit en 1946.
La France et la Grande-Bretagne signent un accord pour la construction commune d'un avion de ligne supernautique, le Concorde.
L'accord pour la construction de l'Airbus entre la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne fédérale a été signé en 1967.
Alors maintenant, c'est le quiz.
En quelle année le premier avion a-t-il été créé ?
C'était en 1890.
Et par qui a-t-il été créé, cet avion ?
Par Clément Agnès Adair.
Et quel était l'avion ?
C'était un avion à moteur et à hélice.
Et quelle distance a-t-il parcouru ?
Il a parcouru 50 mètres.
Et à quelle vitesse allait l'avion ?
À 50 km/h.
Alors merci, c'était l'histoire de l'aviation. Merci de nous avoir écoutés.
Merci à Andy, Jules, Lisande et Pierre. Nous avons appris beaucoup sur les avions.
Et maintenant, un grand bol d'air avec l'équipe des Montgolfières.
Bonjour, je m'appelle Chloé.
Bonjour, je suis Kylian. Nous allons interviewer deux professionnels de la Montgolfière.
Bonjour, je me présente. Je m'appelle Emma. Je fais de la Montgolfière depuis 2 ans.
Bonjour, moi c'est Axel. Je suis ingénieur en Montgolfière.
Quelle sensation avez-vous pendant les vols ?
C'est une sensation inoubliable.
J'ai l'habitude, mais lors de chaque vol, je ressens de la folie et des frissons.
Combien coûte une Montgolfière ?
Une Montgolfière coûte environ 30 000 euros.
Oh, c'est cher.
Effectivement.
Peut-on avoir le mal de l'air dans une montgolfière ?
Effectivement, il est conseillé de ne pas monter dans une montgolfière si vous avez le vertige ou le mal de l'air.
Ah bon ? Quel âge doit-on avoir pour faire un tour de ballon ?
L'âge minimum imposé par l'assurance est de 7 ans, par contre il n'y a pas de maximum.
Faut-il une licence pour piloter une montgolfière ?
Bien sûr, il faut obtenir une licence de ballon à air chaud, en suivant des cours de pratique, faire beaucoup de vols, passer 4 examens et une licence pour l'utilisation de la radio. Mais il faut surtout être en bonne santé.
Combien de temps faut-il pour gonfler et ranger un ballon ?
Ça dépend de la taille du ballon, mais il faut à peu près 20 minutes et une demi-heure pour le rangement.
Dans quelle matière fait-on un ballon ?
Le ballon est fait essentiellement de nylon, mais on utilise également d'autres matières, par exemple le polyester.
À quelle altitude vole une montgolfière ?
La plupart du temps, notre altitude est d'environ 200 mètres sol. Car c'est à cette altitude que l'on a une meilleure lecture paysagère et que l'on reste bien en contact avec le sol.
Combien de passagers peut-on mettre dans une montgolfière la plus grande du monde ?
Le plus grand ballon du monde peut avoir 34 passagers dans sa nacelle.
Peut-on s'asseoir pendant le vol ?
Tous les passagers doivent rester debout pendant toute la durée du vol et accroupis pour l'atterrissage, pour sa propre sécurité et celle des autres.
Comment se dirige-t-on ?
Une montgolfière suit le vent et navigue de la même manière, seulement au gré du vent. C'est la raison pour laquelle le vent doit être calme.
Quelle est la durée du vol ?
Le vol dure environ une heure en moyenne. Toute la prestation quant à elle peut durer de 3 à 4 heures, comprenant le gonflement, le vol et l'atterrissage avec l'équipe au sol.
Comment vole une montgolfière ?
Une montgolfière est un grand sac plein d'air que l'on chauffe à l'aide d'un brûleur. L'air chaud est plus léger que l'air froid. Ce phénomène fait décoller la montgolfière. Ensuite, seulement le vent dirige la montgolfière. Donc, chaque voyage est unique.
Quand on lit les vols ?
Pour voler dans de bonnes conditions, il est nécessaire d'avoir un air le plus stable possible, pas de température élevée et les vents les plus faibles possibles.
Nous vous suggérons également de porter des vêtements décontractés et confortables pour un vol en montgolfière. Les chaussures ouvertes sont évidemment interdites.
L'alimentation de la montgolfière.
La montgolfière utilise du propane pour alimenter le brûleur qui va chauffer l'air chaud dans l'enveloppe du ballon.
Où se fait l'atterrissage de la montgolfière ?
La direction de la montgolfière dépend directement de la direction du vent. Il est difficile de déterminer un lieu précis pour l'atterrissage.
En règle générale, nous décidons de poser de préférence la montgolfière dans une zone facile d'accès pour le véhicule de récupération.
Quelles sont les meilleures conditions météo ?
Les meilleures conditions sont par un vent faible, pas de pluie ni d'orage dans les environs. Un sol sec est aussi recommandé afin de ranger le ballon non humide dans son sac, pour ne pas qu'elle pourrisse.
Merci d'avoir écouté.
C'était Chloé, Emma, Axel et Kylian. Un grand merci à eux. Et maintenant, redescendons sur Terre.
Donnons la parole à Cassandra avec son histoire de voiture.
Bonjour, je m'appelle Cassandra et je vais vous présenter l'histoire des voitures. La première ébauche d'un moteur à explosion a été créée en 1860. Le moteur a été fabriqué par Étienne Lenoir. Il a été dans un premier temps au gaz d'éclairage. Quelques mois plus tard, il invente un nouveau moyen de se déplacer sans avoir besoin du gaz. Il invente donc un carburateur. Ce carburant sera composé de pétrole. Souhaitant expérimenter au plus vite son moteur, il l'installe sur une voiture rudimentaire. Parcourt pour la première fois le parcours Paris-Joinville. Le pont. Mais par faute de moyens matériels et financiers, il se voit dans l'obligation d'abandonner ses recherches. Toutes ces difficultés ne rebutèrent pas les passionnés de faire découvrir la voiture sans chevaux. À l'époque, on la surnommait comme cela au plus grand nombre. Pour cela, il organisait des courses telles que la Paris-Rouen. Cette course a été organisée pour la première fois en 1894. Toutes ces courses avaient pour objectif d'anéantir le moteur à vapeur pour mettre en valeur la souplesse et l'endurance du moteur à explosion. Mais elle démontre que grâce à la Peugeot, pilotée par André Michelin, que grâce à ça, la voiture gagne beaucoup, beaucoup à rouler sans l'air. Merci d'avoir écouté.
On remercie Cassandra pour son intervention.
Passons de 4 à 2 roues avec les motos.
Bonjour à toutes et à tous. Avec mes camarades Rose, Mathis, Céline et moi-même Malo, nous allons vous présenter l'histoire de la moto et leur futur. On entend parler d'un événement en ce moment, c'est les 24 heures du Mans. Pourriez-vous me parler de cet événement ?
Alors, les 24 heures du Mans, créées en 1977, cette course a fêté ses 41 ans le week-end du 21 avril 2018. Le vainqueur de l'équipe cette année a été la Honda numéro 5 de l'équipe japonaise. Honda n'avait pas gagné cette course depuis 2006.
Qui est l'inventeur de la moto ?
C'est Louis-Guillaume Perrault. Donc, il a inventé un vélocipède à grande vitesse.
Comment s'appelle la plus vieille moto ?
C'est la Perrault. Ainsi que la Roper en 1868.
Et quelles marques ont imaginé les motos du futur ?
Ce sont les marques BMW et Honda qui ont imaginé les motos du futur.
Comment les motos vont-elles évoluer ?
Par exemple, la marque BMW s'est inspirée de leur première moto, la R32, construite en 1923. Les designers ont imaginé le BMW Motorrad Vision Next 100, dont les images ont été dévoilées le 12 octobre 2016 à Santa Monica. Sur cette moto, les conducteurs n'auraient plus besoin de casque car elle serait munie d'un système d'auto-équilibrage. La moto resterait donc stable dans les virages autant qu'à l'arrêt et une intelligence artificielle remplacera les défaillances du pilote. Le casque, qui sera inutile, sera remplacé par une visière où des informations s'afficheront comme la vitesse et l'itinéraire. Le moteur sera sûrement électrique car BMW souhaite faire un projet zéro émission.
Quand est-ce que les motos ont été inventées ?
Donc l'invention de la moto s'étend sur 3 décennies. En 1868, la première moto a été inventée.
Et quelles sont les conditions pour avoir une moto ?
Faut bien sûr, pour piloter une moto, faut avoir un casque, une tenue adaptée comme un pantalon, des chaussures fermées, des gants, une veste, et il faut avoir le permis moto.
Merci de nous avoir écoutés. On vous a parlé des motos. Nous vous disons au revoir.
Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, nous allons prendre de la hauteur avec les groupes d'Emma, Mathis, Lino et Yuna.
Les fusées ont été inventées par les Chinois au XIe siècle.
Eh oui, les fusées modernes étaient autrefois des fusées d'artifice attachées sur des flèches qui servaient à protéger la Grande Muraille.
À cette époque, les créateurs de la fusée d'artifice n'ont jamais imaginé qu'un jour, l'idée de leur fusée à poudre atteindrait le cosmos. Par contre, il a fallu plus de 18 siècles pour que les scientifiques s'intéressent enfin aux dispositifs techniques de l'attraction terrestre.
En effet, ce n'est que le 8 octobre 1806 que la fusée Congreve a été lancée par les Britanniques.
Mais c'est en 1898 que Monsieur Konstantin Tsiolkovsky a l'idée des premières fusées spatiales et de leurs réacteurs à combustion.
La première fusée moderne est créée en 1944, c'est la V2. Ensuite, il y a la fusée à ergol stockable qui est inventée un peu plus tard. Elle s'appelle Titan. La fusée la plus grosse du monde mesurait 111 mètres et avait une portée de 3400 tonnes. C'est la fusée Saturn V. Lors de son lancement le 9 novembre 1967, elle est surmontée du module Apollo 4.
En parlant des missions Apollo, les fusées ont été et seront toujours une grande source d'inspiration pour de nombreux artistes, comme pour Ron Howard avec le film Apollo 13 qui raconte l'histoire de cette mission qui tourne à la catastrophe, sorti en 1995.
Ou encore l'écrivain Jules Verne avec son roman
De la Terre à la Lune en 97h20.
Voilà, maintenant vous en connaissez un peu plus sur le transport qui va révolutionner notre vision du cosmos et de la conquête spatiale. Et maintenant, descendez en profondeur avec le groupe de Basile, Amandine, Enzo et Justine avec leur sous-marin.
Bonjour à tous et à toutes. Avec Enzo, Basile, Amandine et moi-même, Justine, nous allons vous présenter les sous-marins. Savez-vous que le premier sous-marin se déplaçait grâce à la force humaine avec une hélice assez élaborée? D'ailleurs, celui-ci se nommait le Nautilus. Ainsi, les plus gros sous-marins du monde sont les sous-marins nucléaires d'engins soviétiques du projet 941 Akula.
Les sous-marins de type K-162 sont les sous-marins les plus rapides du monde. Saviez-vous que sous l'eau, ils peuvent atteindre 80 km/h?
Seuls 6 pays sont capables de construire des sous-marins nucléaires. Ils sont très complexes à construire. Il y a l'Inde, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, les USA et même la Russie. Saviez-vous que les Français font partie des meilleurs inventeurs et constructeurs de sous-marins du monde? Ils ont créé 7 sous-marins entre 1963 et 2006. Le dernier a été construit en 2006. Il se nomme le Barracuda. Celui-ci est un sous-marin militaire d'attaque.
Cherbourg est le seul port français à avoir le savoir-faire exceptionnel et même de réputation mondiale. Il est spécialisé dans la construction de sous-marins. De nouveaux matériaux composites multicouches vont recouvrir les coques des sous-marins russes qui leur permettra même de réduire leur détection acoustique. Savez-vous que les matériaux composites sont utilisés pour la structure des sous-marins depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui?
Les sous-marins mettent environ 3 ans à être construits.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Nous allons laisser notre place au groupe qui vous présentera les voitures du futur.
Bonjour, nous sommes des jeunes élèves de 4e. Nous allons vous présenter notre thème, les voitures du futur. Alors pour vous, je pense, quand on vous dit voiture du futur, vous pensez à une voiture volante.
Mais à quoi ressemblera la voiture du futur ? On a pris deux exemples pour vous expliquer tout cela.
Le premier exemple est le prototype Pop-Up. Pour utiliser ce véhicule, il faut aller sur une application et demander un véhicule pour qu'il vienne nous chercher. Car oui, c'est une voiture autonome. Et la particularité, c'est qu'il peut se transformer en drone pour vous faciliter le voyage. Pour se transformer en drone, il devra se rendre sur une aire spéciale ou une partie aérienne qui dispose de quatre rotors qui viendra sur le dessus de la voiture et s'envolera. Pour ceux qui ont le vertige, à éviter, je pense. La voiture pourra contenir deux personnes de moins de 200 kg et le pare-brise est fait pour reconnaître l'endroit où il est et en donner des informations supplémentaires. Ce véhicule a été testé et a réussi 200 vols parfaits.
Le deuxième prototype est le prototype Mercedes F015. Ce véhicule est très grand, il fait 5 mètres de long et 1,5 mètre de large. Pas très pratique pour se garer. Les roues sont recouvertes par la carrosserie et donc, pour tourner, ils ont pris le système d'un accordéon avec plein de losanges de couleurs. C'est plutôt beau à regarder. À l'intérieur, on peut trouver 4 sièges en cuir pivotant, même celui du conducteur, car il faut savoir que la voiture est autonome. Donc, si le chauffeur veut parler avec les personnes présentes dans la voiture, il a juste à faire tourner son siège. Simple, non ? L'intérieur est rempli de plein d'écrans LED qui se situent principalement sur les portes et le tableau de bord où on peut modifier la musique, changer la température, la vitesse de la voiture, regarder des photos, etc.
Le pare-brise, lui, utilise la technologie réalité augmentée, qui est un système qui nous donne beaucoup d'informations sur la voiture, vitesse, GPS, etc. Et la particularité est qu'il peut détecter les obstacles et les indiquer en tant que cible sur le pare-brise. Plutôt cool, je trouve. Et la dernière information, c'est que le véhicule possède un projecteur laser qui a pour but de donner le maximum d'informations pour les personnes qui nous entourent.
Les deux exemples que l'on vient de citer sont deux prototypes électriques qui ont été conçus pour être écologiques et donc protéger la planète. Ces prototypes ne sont pas commercialisés. La première cause est le prix qui est extrêmement cher. Nous ne connaissons pas le prix car les constructeurs le gardent secret. On n'a pas assez l'avis de la population sur ces nouvelles technologies qui arrivent dans notre quotidien. Les avis sont partagés car ces nouvelles technologies ont un budget élevé et donc tout le monde ne peut pas se l'offrir. La population ancienne a du mal à nous suivre car la technologie évolue tellement vite.
On espère que notre émission vous aura plu et qu'elle vous a fait découvrir ce monde technologique sur les voitures du futur. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amélie, Marie, Brian et Thomas. À bientôt.